Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 17. Et je voudrais passer la plupart du temps sur le verset 3 de cette prière de notre Seigneur Jésus, la prière sacerdotale. Et regardez concernant le sujet de la vie éternelle. Beaucoup ont leur idée de ce que c'est la vie éternelle, mais comme toujours, nous devons regarder à la parole de Dieu et savoir ce que dit la Bible. Nous avons déjà étudié ensemble les deux premiers versets de ce chapitre où, à la veille de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'adresse à son Père, comme il faisait d'habitude. Mais particulièrement, cette prière est un encouragement pour nous qui sommes les enfants de Dieu de pouvoir lire et voir la manière que notre Seigneur Jésus s'adressait à son Père. Nous savons que c'est particulièrement une communion ici entre le Père et le Fils, mais ça nous donne aussi un exemple de la manière que nous devons nous adresser à notre Père à travers le Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur. Alors, pour reprendre le contexte, dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1, c'est écrit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, et puis nous lisons ici, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Et c'est ici, verset 3, que nous avons, dans un seul verset, la définition de la vie éternelle. C'est écrit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, nous voyons ici que, premièrement, la vie éternelle est un don de Dieu. Ça ne provient pas de l'homme. Ça ne dépend pas de la volonté de l'homme. Comme si c'est dans notre pouvoir d'avoir la vie éternelle. Nous savons que depuis la chute d'Adam, sa race a complètement perdu la vie éternelle. Dieu donne, bien vrai, la vie physique. Il donne aux enfants de naître dans le monde et grandir et avoir cette faculté de pouvoir raisonner et d'apprendre dans le sens naturel. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, la première des choses que nous contemplons, c'est que c'est un don de Dieu. Ce n'est pas dans le pouvoir de l'homme de saisir la vie éternelle. Il serait plus facile d'aller et essayer d'attraper et saisir le vent et prendre le vent dans nos mains que de se donner la vie éternelle. Et deuxièmement, ce que nous voyons, parce que dans le verset 2, c'est ce qu'il dit, selon que tu lui as accordé, tu lui as donné pouvoir sur toutes ces choses, afin qu'il accorde la vie éternelle. Donc c'est le don de Dieu, mais deuxièmement, c'est uniquement à travers le Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de religions qui luttent, qui courent d'ici et là, qui apprennent à leurs adeptes à vivre ou bien à marcher d'une certaine manière de pouvoir gagner la vie éternelle. Et ici, nous voyons que ce n'est pas à l'homme de mériter, ce n'est pas à l'homme de gagner la vie éternelle comme c'est quelque chose que l'homme pouvait saisir. s'est accordé à travers le Fils. Notez bien le verset 2, afin que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il, ça c'est le Seigneur Jésus, accorde la vie éternelle. Donc c'est très important de comprendre que ce n'est pas de n'importe quelle manière, surtout par le zèle ou bien l'effacement des hommes à avoir la vie éternelle. C'est uniquement à travers le Seigneur Jésus-Christ et non seulement sa personne, mais son œuvre accomplie à la croix à l'égard de ces pécheurs que le Père lui a donné. Donc cela nous amène au troisième point au sujet de la vie éternelle. Ce n'est pas pour tous. Ce qui est populairement prêché, c'est que, voilà, Dieu veut sauver les pécheurs, il veut bien leur donner la vie éternelle, et c'est comme un concours. C'est ouvert à tous ceux qui veulent bien le recevoir. Sans mention de la manière que Dieu donne la vie éternelle. Nous avons déjà vu que ce n'est pas à la portée de l'homme, ce n'est pas selon la volonté de l'homme. Nous avons vu ça à travers notre étude dans cet évangile selon Jean, et nous devons toujours nous rappeler de cela comme c'est écrit dans le verset 12, que tous ceux qui croient en son nom, elle, cela veut dire la parole qui est Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi nous croyons, laissé à nous-mêmes, on ne pouvait jamais croire, mais c'est selon la volonté de Dieu, à travers le Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui donne l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et puis c'est écrit, lesquels sont nés, comme dans la vie physique, il faut naître pour avoir la vie physique. Spirituellement, il faut naître de nouveau, naître de l'Esprit de Dieu. Et c'est bien précisé dans Jean 1, et le verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je ne sais pas comment ça pouvait être plus précisément déclaré que cela, non du sang, ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne pour dire que, ah voilà, c'est alors la vie éternelle. Et puis c'est écrit, ni de la volonté de la chair. On ne peut pas dire que c'est selon le libre arbitre de l'homme de saisir la vie éternelle et de comprendre, connaître Christ. Non, ni de la volonté de la chair, mais c'est écrit, ni de la volonté de l'homme. Souvent les gens disent, ah, on va se réunir et former une chaîne de prière où, à force de prier, le plus grand nombre qui prie, ah voilà, on aura le résultat dans le salut d'un pécheur. Prions pour que tel ou tel soit sauvé. Nous entendons souvent comme si ça dépendait de la volonté de l'homme. Non, c'est écrit, c'est par Dieu. Donc ce n'est pas par force de l'homme que cette vie éternelle est donnée, mais comme c'est écrit ici dans Jean 17, et le verset 2, afin qu'il accorde la vie éternelle. La vie éternelle est entre les mains de Christ. Et c'est par son sacrifice que cette vie a été gagnée, a été obtenue et que c'est donné. C'est par l'œuvre de Christ et non pas l'œuvre de l'homme. C'est par la volonté de Christ. Parce que tout cela, il dit, ce pouvoir lui a été donné afin qu'il accorde la vie éternelle. Mais ça a exigé d'abord la vie d'obéissance du Seigneur Jésus pour satisfaire à toute la loi et la justice de Dieu et ça exigeait sa mort, parce que la peine du péché, c'est la mort. Il fallait qu'il meure, qu'il offre sa vie. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. C'est ainsi que la vie éternelle est accordée. C'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas pour tous, comme c'est écrit ici, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc ce n'est pas à la disposition de quiconque, mais c'est selon l'élection de la grâce de Dieu. Et l'élection de la grâce de Dieu expliquée selon la Bible, c'est que Dieu, depuis l'éternité, et voilà ce qui est difficile pour nous de comprendre avec le raisonnement naturel, on ne peut pas saisir du fait que depuis l'éternité, cela veut dire qu'il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'avait pas déjà choisi les pécheurs qu'il voulait sauver. Et depuis l'éternité, le Fils était là comme celui qui devait prendre la charge de ceux que le Père lui a donné. Et dans l'accomplissement du temps, venir dans ce monde pour faire tout ce qui est nécessaire à travers sa vie et sa mort à la satisfaction de Dieu le Père pour que Dieu soit juste tout en déclarant juste à travers la mort de Christ tous ceux que le Père lui a donné. C'est pourquoi il y a beaucoup dans le monde, quoi qu'ils entendent prêcher ce message, comme peut-être certains maintenant en train de m'écouter annoncer ce message, ils entendent avec des oreilles physiques. Le problème n'est pas physique. Mais ils continuent dans leur voie de perdition parce que Dieu les a laissés à leur sens réprouver. Et si Dieu lui-même les a pas choisis, donc ils vont mourir exactement comme ils sont nés dans ce monde. Et ils subiront la juste condamnation de Dieu le Père. Le salut n'est pas à la disposition, comme les gens aiment prêcher. Ah oui, mais la Bible dit, mais quiconque. Non, la Bible ne dit jamais quiconque. C'est toujours conditionné. Quiconque croit. Mais qui peut croire? Parce que ce n'est pas à la disposition de l'homme de croire à cause de son péché. C'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Quiconque a soif. Mais qui a soif si ce n'est des pécheurs en qui Dieu a donné son esprit, donné la vie? Un cadavre n'a pas soif. C'est un mort, c'est fini. Mais si quelqu'un a soif, et encore, ce n'est pas la soif pour n'importe quoi. Paul lui-même disait que les Juifs avaient soif de voir des signes et des miracles. Et les Grecs avaient la soif pour la sagesse humaine. Il y a beaucoup de gens dans la religion, ils ont une certaine soif, mais ce n'est pas pour Christ en qui est la vie éternelle. Or, ils disent qu'ils ont le désir de connaître Christ davantage, mais ce n'est pas une soif où, au fond de leur être, ils savent que si Christ n'est pas révélé en eux, alors, il n'y a pas d'espoir. Donc, la Bible ne dit jamais quiconque voit, c'est toujours précisé, mais qui peut voir si ce n'est des pécheurs à qui Dieu a donné des yeux pour voir. Il y en a même physiquement qui sont nés dans ce monde comme tout autre et qui sont aveugles dès leur naissance. Mais qui a fait cette différence? Pourquoi certains, même dans la vie, voient et d'autres ne voient pas? Ça, c'est selon le choix de Dieu. Donc, en ce qui concerne la vie éternelle, c'est la même chose. C'est pas à la disposition de tous, mais c'est à tous ceux que tu lui as donnés. Donc même dans sa prière, Christ ne prie pas pour que le monde soit sauvé. Il y en a qui, ça c'est leur pensée, ah si on pouvait simplement prier davantage pour les gens, alors ils seraient sauvés, non? Tout cela est selon la volonté éternelle de Dieu. Et ici même Christ prie pour ce que le Père lui a donné. Donc c'est de cette manière que nous prions. Lorsque nous sommes devant nos congrégations ou bien devant une foule, nous ne prions pas comme le monde prie à Dieu que tu bénisses tout le monde et que tu daignes recevoir tout le monde, que tu aies pitié de tout le monde et tu gardes ta main sur tout le monde afin que tout le monde soit sauvé. Non, c'est vrai. Il y a ceux du monde entier que Dieu a choisi et a donné à son Fils. Les pécheurs de toute nation, de toute langue, de tout peuple. Dans ce sens-là, on peut dire qu'il a prié pour le monde, mais pas pour tous les êtres humains. Parce que tous ne lui ont été, ne lui avaient pas été donnés. La vie éternelle, c'est ce que nous sommes en train de voir dans notre texte, que c'est un don de Dieu, premièrement, et deuxièmement, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie pour les pécheurs, et c'est pour des êtres particuliers que le Père a donné à son Fils. C'est pourquoi nous voyons que cette affaire du salut ne dépend pas de l'homme, mais c'est selon la volonté éternelle de Dieu. Et nous avons déjà vu certains de ces points dans des études précédentes, mais je voulais revenir là-dessus simplement pour confirmer que ce que nous lisons ici et ce que nous voyons à travers toute la Bible. Par exemple, dans Jean chapitre 6, et le verset 37 à 39, ce sont des versets importants à voir ensemble. Notez dans le verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Et ça, c'est en contraste avec ce qu'il a dit dans le verset 36. « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, » cela veut dire avec des yeux physiques, et vous ne croyez point. Ça va toujours être ce résultat. Le problème n'est pas avec la parole de Dieu. Le problème, c'est avec l'aveuglement des hommes. Ils lisent les mêmes choses que nous lisons. Et on peut peut-être se demander, mais pourquoi ils ne croient pas? Voilà encore, c'est parce que ce n'est pas à la disposition de l'homme de croire. Il faut l'œuvre de l'esprit. Et voilà, le verset 37 nous donne la réponse. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean aime citer toujours la dernière partie de ce verset. Il dit, non, mais vous voyez, c'est écrit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc, nous devons inviter tous les hommes de venir. Non? Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Voilà ce qui fait la différence. Tous ne sont pas donnés, donc tous ne viennent pas. Mais tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous pouvez comprendre ça dans le sens de votre famille. Il y a des fois où vous invitez tous les membres de votre famille à venir chez vous pour manger ensemble. Et les autres, peut-être les voisins, les autres, ils voient ce qui se passe. Le fait que vous invitez uniquement les membres de votre famille. Mais ils ne doivent pas se plaindre parce que vous ne les avez pas invités à venir. Ça, c'est adressé particulièrement à votre famille ou une occasion spéciale. Donc, ce n'est pas tous qui vont venir chez vous, parce que tous, dans ce sens-là, n'ont pas été désignés pour venir manger à votre table. C'était uniquement les membres de votre famille, mais tous ceux qui sont membres de votre famille, tous ceux que vous avez, dans ce sens-là, choisi à venir, ils viennent. Mais le reste, ceux qui sont dehors, ils voient ce qui se passe, mais ça ne les concerne pas. Donc, ils continuent sur leur voie. Voilà la réponse à ceux qui posent cette question, mais comment on peut savoir si nous sommes parmi ceux-là qui ont été élus de Dieu? Christ lui nous dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Voilà pourquoi nous devons nous patienter en prêchant l'Évangile, parce que il se peut que nous prêchons à des gens qui rejettent ce message au départ, et peut-être pour un certain temps, ils continuent à se rebeller contre ce message qui donne toute la gloire à Christ et Christ crucifié, mais nous ne pouvons pas pour cela dire « Ah, voilà, t'es réprouvé ». Le fait qu'ils ne croient pas immédiatement, cela veut dire qu'ils ne sont pas élus. Nous ne pouvons pas raisonner comme ça. Posez-vous la question pour vous-même dans votre expérience en ce qui concerne le salut et la croyance en Christ. Ce n'est pas dès le premier message que vous avez cru. Si vous êtes comme moi, j'étais assis sous la lecture de la parole de Dieu, pour un certain temps. Et de temps en temps, à travers certains prédicateurs, je voyais certaines de ces vérités concernant Christ et la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. Je voyais ça dans la Bible, mais souvent le prédicateur prêchait ailleurs, autour. Pourtant, je voyais clairement ces choses dans la Bible. Mais pour un certain temps, je suivais ces faux docteur, c'est faux prédicateur. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler à Christ en moi, alors je le suivais. C'est toujours dans le temps de Dieu lui-même où il accorde cette grâce par son esprit d'ouvrir les yeux que nous croyons et que nous venons à Christ. Mais ce qui est sûr, comme Christ le dit ici dans Jean 6, le verset 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Ça, c'est sa promesse. Ça continue dans le verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire, et notez encore, si c'était à la disposition de l'homme de saisir la vie éternelle, comme si c'est là, seulement l'homme doit saisir cette vie, si tel était le cas, Christ n'aurait pas venu. Mais ici, il dit, je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Christ est venu comme le substitut pour faire ce que l'homme ne pouvait pas. Nous ne sommes pas capables, à cause de notre état de péché, de satisfaire en quoi que ce soit la volonté de Dieu. Donc Christ est venu comme le substitut pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et puis c'est précisé dans le verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, notons, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et donc, ça conclut dans le verset 40. Or, la volonté de mon Père. Voilà une de ces expressions-là. C'est que quiconque voit. Ce n'est pas que, afin que quiconque. Mais quiconque voit. Qui verra si ce n'est ceux à qui Dieu donne les yeux pour contempler et voir. c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Cet ordre est très important. Il faut qu'il donne les yeux pour voir d'abord, et ensuite vient la croyance, et qu'il croit en lui. Notez, et la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc tout cela correspond avec ce que nous sommes en train de voir ici dans Jean chapitre 17 et la manière que Christ prie pour les siens. C'est lui qui a l'autorité sur toute chair, revenant dans le verset 2, afin qu'il accorde ta vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et puis, dans le verset 3, nous continuons à voir ce que la Bible dit au sujet de la vie éternelle. Et nous voyons ici quatrièmement que la vie éternelle n'est pas une simple profession de foi, de joindre une religion quelconque, ou bien de se réformer dans notre manière de vivre pour se déterminer à vivre mieux selon les lois de Dieu. Voilà comment beaucoup pensent à la vie éternelle. C'est quelque chose à saisir. Donc, je me mets maintenant, je m'efforce à vivre d'une manière à avoir cette vie éternelle à la fin. Lorsque je meurs, alors j'aurai cette vie par ma manière de vivre. Je dois dire que la plupart de ceux même qui se disent chrétiens aujourd'hui, c'est leur manière de penser. C'est quelque chose à saisir pour réserver sa place dans l'avenir. Non? Ici, c'est écrit dans le verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Donc déjà, nous pouvons dire que la vie éternelle, quatrièmement, c'est la connaissance de Dieu, voilà ce qui est écrit là, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et même, on peut traduire ça comme ça, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela nous montre encore, nous ne pouvons pas connaître le seul vrai Dieu, si ce n'est à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement une question de connaître certains faits concernant Dieu, comme on en voit des hommes et même aujourd'hui des femmes à des écoles pour former des prédicateurs, des missionnaires, des pasteurs et autres. Et on leur donne des cours de théologie. Ce mot théologie, ça vient du mot théos signifie Dieu. Ça, c'est le nom pour Dieu dans le grec. Et logie, ça, c'est ça que nous avons le mot logique. Donc, c'est la connaissance de Dieu. Mais il faut dire que c'est possible d'avoir une certaine connaissance de Dieu et de savoir tout ce que la Bible dit au sujet de Dieu. Et avec le raisonnement humain, appréhender Dieu avec sa logique et ne pas avoir la vie éternelle. Ça, c'est évident. Ce n'est pas une question de mémoriser les faits concernant Dieu pour dire que, ah, maintenant je connais Dieu. Dans Jacques chapitre 2 et le verset 19, nous voyons là que même le diable connaît Dieu, connaît les faits concernant Dieu. Il connaît que Dieu est saint, par exemple. Il a déjà vécu la sainteté de Dieu dans sa condamnation comme le diable depuis le début du temps. Et il a été jeté de la présence de Dieu lui-même à cause de cette sainteté, lorsque le diable lui-même et ses anges ont chuté. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, Jacques a écrit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» Il y a beaucoup de gens qui disent, « Ah oui, mais non, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. » Il dit, « Tu fais bien, mais il ajoute, hein, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Il faut dire que les démons sont plus reconnaissants, ou bien ils connaissent davantage Dieu dans sa justice et sa sainteté, jusqu'au point de trembler, ce que les hommes, dans leur aveuglement, croient qu'ils ont cette connaissance qu'il y a un jugement à venir, et que c'est Dieu qui juge les pécheurs, et qu'il y a un enfer, tout cela, les gens comprennent. Mais cela ne veut pas dire alors qu'ils ont la vie éternelle. En fait, quelqu'un peut croire que Dieu est Dieu. Quelqu'un peut même croire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu et qu'il est venu dans ce monde et il a vécu une vie de sainteté devant Dieu et qu'il a donné sa vie à la croix et qu'il est ressuscité et qu'il est remonté au ciel. Et qu'il est là, assis à la droite de la majesté divine. Quelqu'un peut croire tout cela et ne pas croire plus que Satan lui-même. Ce sont des faits qui sont vrais, mais cela n'indique pas avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, comme c'est écrit ici dans le verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Connaître comment? Ça, c'est pas une révélation du Christ au cœur. Et voilà ce qu'il faut pour qu'un pécheur entre dans cette vie éternelle de connaître le Christ tel qu'il est révélé ici dans les Écritures, de connaître par la révélation du Christ même au cœur. Voilà quelques passages que nous ne devons pas ignorer. Par exemple, dans Galates, chapitre 1, et le verset 15 et 16, on peut peut-être se poser la question, mais à quel point est-ce qu'un pécheur connaîtra en vérité le Seigneur Jésus-Christ? Nous savons que ça ne serait pas selon la décision du pécheur, non. Ici, Paul nous donne la réponse. Quand il dit dans le verset 15, Galates 1, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » Pour moi, ça c'est très important de noter. Ce n'est pas seulement révéler à quelqu'un. Je peux faire cela en prêchant Christ aux pécheurs et ils entendent le message. Et dans leur perception, par leur logique, ils peuvent peut-être saisir certaines parties et dire, ah oui, mais ça c'est vrai. Mais ici, c'est précisément écrit, et notons bien que chaque parole est inspirée de Dieu, donc de révéler en moi son Fils, dans son cœur, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Lorsqu'il plaît à Dieu de révéler Christ dans le cœur d'un pécheur, il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Beaucoup de ceux à qui nous prêchons, lorsqu'ils entendent la vérité concernant le Seigneur Jésus-Christ prêchée dans toute sa clarté, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais il me faut aller consulter mon pasteur, parce que ce n'est pas comme ça qu'il enseigne, donc je dois d'abord discuter ces choses avec lui, afin de pouvoir savoir si je dois croire ou pas. Les regards de beaucoup sont sur les êtres humains, d'autres, et non pas sur Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Christ a dit. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Mais c'est par la révélation du Christ au cœur que cela se passe. Et c'est selon la volonté de Dieu. Parce que verset 15 dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. C'est vrai, mis à part dès le sein de la mère, ça c'est l'élection de la grâce divine. Il était, même depuis le sein de sa mère, déjà un enfant de Dieu par l'élection de sa grâce. Mais ce n'était pas révélé qu'il l'était, et nous connaissons la vie de l'apôtre Paul avant d'être converti, comment il persécutait l'Église. Rien dans sa vie de religion ne manifestait qu'il était effectivement un élu de Dieu. Mais lorsqu'il a plu à Dieu, qu'il avait mis à part dès le sein de sa mère, et qu'il a appelé par sa grâce, voilà cet appel. On appelle ça parfois la régénération, l'œuvre de l'esprit dans le cœur. C'est ainsi qu'il a connu le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la manière que la vie éternelle est connue et que la vie éternelle est obtenue. C'est par la connaissance du Christ révélé au cœur selon l'élection de la grâce de Dieu. Donc, on peut conclure sur un cinquième point au sujet de la vie éternelle, et c'est que c'est une vie spirituelle. Nous ne parlons pas d'une vie physique ou bien d'une compréhension physique, naturelle, par notre logique. Non, la vie éternelle, c'est une vie spirituelle. Cela veut dire que c'est la vie divine. C'est la vie de Dieu lui-même à travers le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, qui habite en nous et qui nous anime dans tout notre être à partir du moment où il plaît à Dieu de révéler Christ en nous. C'est l'Esprit de Dieu même qui est notre espérance. Et cet Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Christ. Dans l'Épître selon Jean, la première Épître, et le chapitre 5, c'est le même auteur que nous sommes en train d'étudier ici dans l'Évangile selon Jean. Mais dans son épître, Jean nous parle de cela dans sa première épître, chapitre 5 et le verset 20. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc c'est un fait que nous savons à travers la Bible, mais pourquoi est-ce qu'il est venu? Voilà la question que nous devons toujours poser. Rappelons-nous que on peut désigner la somme de l'Évangile par ces cinq questions. Qui est venu? Pourquoi il est venu? Pour qui il est venu? Et qu'est-ce qu'il a accompli par sa venue? Et où il est maintenant? Ces réponses sont données pour nous aider à comprendre davantage l'Évangile de Dieu, mais encore, ce n'est pas seulement le fait de savoir répondre à toutes ces questions. Mais comme c'est écrit ici dans le verset 20, nous savons qu'il est venu et qu'il nous a donné, voilà encore la vie éternelle, c'est un don de Dieu, donné l'intelligence pour connaître la le véritable, Christ a dit, il est la vérité, la vie et le chemin. Donc, la véritable, il n'y a pas de vérité à travers ou bien en dehors de lui. Et nous sommes, notez bien, dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Voilà cette union par son Esprit en nous qui nous unit à lui. Nous sommes dans le véritable. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et notez la vie éternelle. C'est pourquoi Jean termine son épître, dans le verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Une idole, c'est de regarder ou de croire à quelque chose d'autre que être complètement uni et lié au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça la chute est venue au départ, le péché entré dans le monde parce que il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il y avait l'arbre de la vie. Et c'est lorsque Adam et Ève étaient détournés pour regarder cet arbre de la connaissance, voilà ce que l'homme aime, pour suivre la connaissance de ce qui est bien et du mal. Ça, c'est là, c'est à partir de là que l'idolâtrie est entrée dans le monde, que Adam et Ève sont devenus idolâtres, et c'est comme ça que nous sommes nés dans ce monde, et il faut l'Esprit de Dieu de nous enlever les regards de toute autre manière de vivre, ou de toute pensée, de croire que, non, le salut, nous pouvons obtenir cela à travers notre connaissance, et essayer de déchiffrer entre le bien et le mal, voilà, ce que les gens poursuivent. Ça, c'est l'idolâtrie. Alors, il n'y a qu'une seule voie, une seule manière d'avoir la vie éternelle, comme c'est écrit ici, c'est d'avoir cette vie en Jésus-Christ. Et toute autre pensée, toute autre réflexion, toute autre direction dans la vie de quelqu'un, ce n'est que de l'idolâtrie. C'est la seule manière de connaître le Seigneur Jésus-Christ et d'avoir la vie éternelle. Alors que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'étudier ensemble à sa seule gloire, l'unique gloire du Seigneur Jésus lui-même. Amen.